Il est 19h sur Radio Campus Paris, alors aiguisez vos têtes et fourbissez vos oreilles sur la bouquinerie, car nous hissons le pavillon.
Tant qu'il y a des pages,
des mots,
des mots,
ou pas,
et puis tant que ça se sert, hein.
Même si ça se lit en diagonale, à la verticale, à tête en bas,
la tête en bas,
yahoo, et si ça se lit aux toilettes aussi,
ouais aussi,
ben c'est la bouquinerie, un mardi sur vous.
Bouquineuse, bouquineur, bourlingueur de l'imaginaire, bonsoir. Prenez place à nos côtés et n'oubliez pas votre tasse de chocolat chaud pour vous fouetter les sangs. Aujourd'hui, la bouquinerie vous accueille dans son repère pour une émission spéciale en collaboration avec l'association Les Livreurs et le festival Livre en Tête, festival de lecture sonore, dont nous recevons le président d'honneur, Daniel Mesguich. Bonjour, monsieur Mesguich.
Eh bien, bonjour.
Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous crayonner Livre en Tête, le festival là ?
Je ne peux pas vraiment parce que je ne suis que le président d'honneur. C'est-à-dire que on m'a proposé d'être le président d'honneur, j'ai dit oui, à cause du mot honneur, pas à cause du mot président. mais je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que je crois qu'il s'agit de quelque chose de passionnant parce que c'est un rapport entre l'écrit et l'oral. Et c'est évidemment là que se situe tout mon travail, donc je ne pouvais que dire oui.
Un travail que nous allons aborder dans cette émission, puisqu'il sera question de dégustation littéraire et de votre œuvre. Mais avant de lancer les hostilités, sachez que vos facétieux chroniqueurs se sont réunis en concile et ont profité de l'occasion pour changer les règles du jeu. Exit donc la partie magazine, désormais les chroniques se feront tout au long de l'émission, afin de proposer plus d'échanges avec notre invité. Il se prépare donc à faire parler la poudre. Nous commencerons par notre traditionnel échauffement, le flash news littéraire décalé de Quentin. Puis notre fine lame philosophique, Tim, prendra la relève. Quoi de neuf sous le soleil d'Aristote, Tim ?
Donc aujourd'hui, on va voir le pouvoir des mots et aussi la façon dont on les utilise.
Un coucou au redoutable Julien qui, derrière sa vitre, maniera les manettes comme un autre manierait la plume.
Bonsoir.
Mais bouquineuse, bouquineur, halte là. Avant d'entrer plus avant dans notre émission, es-tu au courant de l'actualité littéraire ? Si, comme nous, ce n'est pas le cas, eh bien, Quentin, notre fringant chroniqueur, se chargera de nous rafraîchir la mémoire. C'est parti.
Vous écoutez la bouquinerie sur Radio Campus Paris et c'est l'heure pile des informations littéraires. Bonsoir à tous. À la une, ce dimanche 13 novembre 2016, il y a un an, jour pour jour, la France était marquée par les attentats. Bataclan, Saint-Denis, la mémoire des disparus a aujourd'hui été célébrée. L'année dernière, nous vous avions parlé du travail des archives de Paris. Qu'en est-il aujourd'hui ? Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique, vous le savez. Ensemble, nous allons revenir sur sa place dans la culture américaine, son impact sur la littérature et essayer de décrypter ce que sera sa politique culturelle. Et enfin, une initiative citoyenne qui ne demande qu'à se développer, la bouquinerie du Sarthe, recycle vos vieux livres et aide à la réinsertion des sans-domicile fixe. On en parle à la toute fin de cette édition.
13 novembre 2016, un an après les attentats qui ont touché la France, la mémoire des victimes est toujours vive.
Oui, en effet, aujourd'hui ont eu lieu les commémorations en hommage aux victimes des attentats de l'année dernière, l'occasion pour nous, bouquineurs, de nous pencher sur le travail des archives de Paris. On vous avait dit l'année dernière, dans cette même émission, que les archives de Paris avaient abattu un travail monstrueux pour classer, trier et conserver tous les hommages aux victimes, que ce soit sur Place de la République ou bien rue de Charonne ou devant le Bataclan. Aujourd'hui même, les archives de Paris ont numérisé quelques-uns des hommages, 200 d'entre eux sur les 7689 documents archivés. Ils sont disponibles sur paris.fr. D'ici au 31 décembre, l'intégralité des documents devrait être numérisée.
Trump est le nouveau président des États-Unis et le monde culturel tremble.
Tout à fait, ça s'est passé dans la nuit du 8 au 9 novembre, heure française. Donald Trump accède à la présidence et ce n'est pas sans inquiéter la plupart des artistes et littéraires américains, voire même du monde entier. L'occasion pour nous de rappeler que Trump possède une grande place dans la culture américaine. Homme de télévision, il a longtemps été présentateur d'une émission de télé-réalité avant de réaliser plusieurs caméos dans des films américains comme Maman, j'ai raté l'avion. Dans la littérature américaine, Trump tient aussi une place de choix. En 91, l'écrivain Bret Easton Ellis publie son best-seller American Psycho. Psycho, un roman psychédélique et trash qui décrit les excursions psychopathes de David Bateman. Ce personnage Yuppie de Wall Street a deux obsessions, obtenir une réservation dans un grand restaurant pour s'accompagner lui-même un vendredi soir d'une part, et se faire inviter au réveillon sur le yacht de Donald Trump d'autre part. De ce livre découlera un film du même nom dans lequel Christian Bale interprétera Bateman. Trump président, c'est aussi beaucoup d'inquiétudes dans la classe culturelle américaine. L'auteur Toni Morrison, prix Nobel de littérature, a livré sur France Inter au micro d'Augustin Trapenard son inquiétude sur l'évolution de la politique aux USA, notamment avec le retour de la question raciale au premier plan. Pour elle, le slogan de campagne du nouveau président Make America Great Again ne signifie pas rendre sa grandeur aux États-Unis, mais de lui rendre sa blancheur. C'est un slogan raciste. Fin de citation.
Et on termine sur une note plus légère, direction Lille, avec une initiative qui redonne confiance en l'humanité.
Oui, car la bouquinerie, au-delà d'être une super émission de radio sur Radio Campus Paris, c'est aussi une entreprise de recyclage de livres, CD ou DVD qui a pour but principal la réinsertion de personnes en difficulté. Vianney Poissonnier, son fondateur, explique que par des contrats de 6 mois ou 1 an, il veut rendre ses employés fiables, bons camarades et compétents. Le chef d'entreprise aide ses employés à trouver un logement et les accompagne dans la réécriture de leurs projets professionnels. Vianney explique qu'il y avait une structure à développer autour de la revalorisation, donner une deuxième vie aux ouvrages, les redistribuer ou bien les recycler. Mais la bouquinerie du Sartre, c'est aussi plus de 6000 vinyles en attente de revente. Les particuliers peuvent ainsi directement se rendre à la bouquinerie, mais l'entreprise met aussi à disposition sur internet des étiquettes pour envoyer ses colis depuis chez soi. Après plus d'un an d'activité, la bouquinerie du Sartre consolide sa structure lilloise et invite toute personne motivée à commencer l'initiative dans sa ville. Le gérant serait ravi d'accompagner la création de structures sur tout le territoire. Le message est bien passé.
C'était Quentin qui nous fait entrer tout de suite dans le vif du sujet. Daniel Mesquich, je crois que vous avez aussi une actualité brûlante, dont vous allez nous entretenir. C'est dans une semaine, c'est à partir du 21 novembre. C'est le festival Livre en Tête et vous y avez une intervention sur la dégustation littéraire, sur la comment apprécier la robe d'un livre.
Mon Dieu, c'est ça mon intervention? Vous en savez plus que moi. Mais si, il va s'agir de Proust, surtout en ce qui me concerne, puisque il se trouve que les éditions Frémaux, les livres sonores, vous savez, m'ont proposé de lire ce qu'ils appellent l'essentiel de Proust, c'est-à-dire presque toute la recherche du temps perdu. Ce que j'ai fait, ça donne 6 coffrets de 5 disques chacun, avec un seul narrateur qui est moi-même. Et je suis entré dans un univers que je connaissais comme tout le monde, c'est-à-dire mal, voire presque pas. J'avais lu, comme on dit, Proust, mais tous les gens qui disent qu'ils ont lu Proust, d'abord ne l'ont pas lu, pour la plupart. Et quand ils l'ont lu un peu, comme je l'avais fait moi-même, ils sont passés à côté. Moi, en lisant à haute voix, je me suis rendu compte, alors je vais enfoncer les portes ouvertes, hein, bien sûr, pardonnez-moi, mais je me suis rendu compte d'abord que c'était génial. Je le savais, mais je ne faisais que le savoir, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, vraiment. Je me suis rendu compte que c'était un immense poète, je me suis rendu compte qu'il avait un humour hallucinant, je me suis rendu compte que c'était une difficulté folle, parce que quand il commence une phrase à une page et qu'il la termine 2 pages plus tard, et que au milieu de cela il y a des parenthèses, des tirets dans la parenthèse, des parenthèses dans les tirets qui sont dans la parenthèse, et surtout une flopée de virgules hallucinantes. Je dis hallucinantes parce que elles n'ont jamais la même valeur. Certaines virgules sont presque rien, ce sont des énumérations. Voilà. D'autres sont énormes parce que ce sont celles qui font basculer toute la phrase. D'autres parfois manquent, ou semblent manquer en tout cas. Or, quand vous lisez à haute voix, vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez pas le droit. Lorsqu'on lit dans sa tête, on réajuste sans cesse. Et même si on s'est trompé, on ne se rend même pas compte qu'on se trompe, et puis on voit « ah oui, d'accord », et hop, on remonte la phrase et ça marche. Quand on lit à haute voix, non, il n'y a qu'une possibilité, la bonne, la juste. Et donc déjà, il m'a appris ça, enfin je le savais un peu, puisque je lis d'autres textes à haute voix, bien sûr, mais lui m'a fait toucher du doigt cette folie que tout était possible en littérature, et donc il m'a ouvert vraiment des voies que je ne connaissais pas. C'est de ça que je vais parler à Livre en Tête.
Parfait. La question du langage est centrale dans un festival littéraire et Tim, notre chroniqueur philosophe, nous en livre son interprétation personnelle.
Donc en épigraphe du programme du festival, on peut y découvrir ces mots d'Ernest Le Gouvet, écrivain du 19e siècle, tiré de son livre « L'art de la lecture ».
Boileau a dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ». Il est juste d'ajouter « Ce qui s'énonce clairement se conçoit mieux ».
Les mots joueraient ici le rôle d'organisateur de la pensée. Car oui, les mots et la manière dont on les utilise ont un pouvoir. Ils ont des pouvoirs. Tout d'abord, un pouvoir social. Parler, c'est communiquer. et communiquer, c'est s'intégrer dans l'espace social. Difficile d'imaginer une personne pleinement intégrée et qui ne soit pas capable de former des mots. Par exemple, on peut invoquer l'histoire de Victor de l'Aveyron, cet enfant découvert dans la forêt à la fin du XVIIIe siècle et recueilli par un médecin qui va se charger de son éducation. Cet enfant non seulement ne connaît pas les coutumes de la vie en société, mais aussi il ne parvient pas à parler, à communiquer ou tout simplement à s'exprimer. Évidemment, il n'en avait pas besoin avant d'être en contact avec les hommes. Truffaut a d'ailleurs réalisé un film à propos de Victor, L'enfant sauvage. On y voit que l'apprentissage, ou à défaut, la reconnaissance des mots, est le premier élément que le médecin va essayer d'inculquer à Victor. Écoutons un extrait.
Attention Victor. Livre, ciseaux, cadre. Brosse, clé, clochette.
Alors je vais essayer d'expliquer cet extrait. Donc le médecin joué par Truffaut lui-même lit des mots inscrits au tableau. Et Victor doit ensuite aller chercher les objets correspondant à ces mots qui viennent d'être énoncés. Victor ne sait pas encore parler, mais il sait alors reconnaître les sons et ce à quoi ils correspondent. En d'autres termes, il comprend. Une communication avec les autres êtres humains est alors possible. C'est en cela que le langage possède un pouvoir social.
Tu avais parlé de pouvoir au pluriel, ma question c'est quels sont les autres ?
Alors bien sûr il y a un pouvoir libérateur du langage, c'est ce qui est recherché dans les thérapies psychanalytiques notamment. À ce sujet, il y a deux bons films d'Hitchcock, La maison du docteur Edwards et Pas de printemps pour mardi. Dans ces deux films, Hitchcock reprend ni plus ni moins la méthode freudienne. Il faut parvenir à énoncer le mal qui nous ronge afin d'en être libéré. Pardonnez-moi pour le petit jeu de mots, mais dans cette situation, le passé ne passe pas. Parler, c'est se libérer de ce fardeau. Mais bien sûr, il n'y a pas que le pouvoir libérateur du langage. Il y a aussi un pouvoir politique. Ici, quand je parle de pouvoir politique, je ne veux pas parler de la rhétorique qui nous montre qu'avec les mêmes mots, on peut à la fois dire tout et son contraire. Ici, je parle d'un pouvoir qui serait plutôt liberticide. Le langage structure la pensée. Pour paraphraser Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. De ce fait, limiter les mots ou contrôler leur utilisation, c'est asseoir un certain pouvoir sur les consciences. C'est intéressant de noter à ce propos que l'Académie française fut créée au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, un des fervents défenseurs de l'absolutisme. Mais écoutons l'extrait d'un livre à la fois génial et terrifiant.
C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets. Mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre ? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez « bon » par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? Un « bon » fera tout aussi bien, même mieux, parce qu'il est l'opposé exact de « bon », ce que n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme « excellent »,« splendide » et tout le reste ? Plus bon englobe le sens de tous ces mots. Et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a « double plus bon ». Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive du novlangue, il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement, en réalité, un seul mot. Voyez-vous, Winston, l'originalité de cela ? Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Sim prit une autre bouchée de pain noir, la mâcha rapidement et continua. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot dont le sens sera délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint.
C'était un extrait de 1984, le chef-d'œuvre de George Orwell. Dans cet extrait, Sim, un membre du gouvernement chargé de l'écriture du dictionnaire officiel, présente en quelque sorte les caractéristiques d'une nouvelle langue. Cette langue en perpétuelle modification puisque, à chaque édition du dictionnaire, le nombre de mots chute. Et de préciser le but de cette entreprise, restreindre la pensée. L'enfermer dans des carcans préétablis par le régime totalitaire de Big Brother. À l'opposé de cette conception, on pourrait opposer que le langage est au contraire un frein à l'expression de notre pensée. En effet, les mots sont beaucoup trop généraux pour pouvoir refléter à la perfection la particularité de ce qu'on pense. De ce point de vue, Big Brother aura beau contrôler la langue, il n'en contrôlera pas pour autant la pensée. Car cette dernière ne se réduit pas à ce que nous exprimons. À ce propos, Bergson écrit
« Nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. La pensée demeure incommensurable avec le langage. »
Certes, Big Brother contrôlera notre communication, mais le crime par la pensée, la capacité d'émettre des idées contraires à la doxa du régime, cette capacité, quant à elle, demeurera.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime,
ne prends qu'un M,
par-dessus tout. Ne me dis point,
il en manque un,
que tu t'en fous. Je t'en supplie,
point sur lui,
fais-moi confiance. Je suis l'esclave.
Vos oreilles s'affûtent sur les ondes de Radio Campus Paris et vous écoutez la bouquinerie. C'était Timothée qui nous parlait des pouvoirs du langage. Tim, tu nous as servi sur un plateau d'argent quelques références bien senties. Est-ce que tu peux nous les dire, s'il te plaît, les préciser?
Alors oui, j'ai commencé par un extrait de L'Enfant Sauvage, un film réalisé par François Truffaut en 1970. Vous avez pu entendre un extrait de 1984, le livre écrit par George Orwell, en 1949, un roman d'anticipation. Et enfin, vous êtes en train d'écouter « En relisant ta lettre » de Serge Gainsbourg, chanson écrite et interprétée en 1966.
Daniel Mesguich, vous êtes un homme de lettres au vaste arsenal, metteur en scène, acteur, traducteur, lecteur également, professeur de théâtre, fut un temps, directeur maintenant du conservatoire.
Je suis toujours professeur de théâtre.
Toujours. Mais du coup, vous êtes aussi directeur du conservatoire supérieur des arts dramatiques.
Je l'étais.
Vous l'étiez ?
Je l'étais, je
ne l'étais plus. Vous l'avez quitté
Il y a deux ans.
Deux ans, ok. Bon, mes informations ne sont plus correctes alors. Et donc, nous vous savons particulièrement sensible à cette question de la langue.
Oui, évidemment. Moi, je pense qu'il n'y a rien sans la langue. Si vous voyez un panneau rond avec une barre horizontale dessus, si vous ne savez pas le sens du mot sens, et si vous ne connaissez pas le sens du mot interdit, je vous assure que vous ne comprenez pas que c'est un sens interdit. C'est-à-dire que les mots sont premiers. C'est assez bizarre, parce qu'on pourrait se dire, mais non, ils ne sont pas premiers, il y a d'abord ce qu'on ressent, hein, et puis après, l'enfant sauvage apprendra les mots, etc. Non, 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 les mots sont premiers, même les mots absents sont premiers, si j'ose dire. Ils sont toujours premiers. Et d'autre part, les mots sont trompeurs, sans doute, parce qu'il y a des degrés, tout simplement. Récemment, une amie me faisait remarquer que si je n'ai que la phrase « les salaires sont un scandale », selon qu'elle est dite par un patron ou par un syndicaliste, la phrase veut dire exactement le contraire. Et pourtant, tout le monde comprend le mot salaire et le mot scandale. C'est pour dire donc que les mots sont trompeurs, sans cesse. Et il faut sans arrêt lire à côté, lire entre les mots. Mais c'est pourtant eux qui font tout. Les mots ou les lettres, si vous voulez. Il y a une pensée qui dit qu'avec quelques lettres, on peut construire un monde. Je pense que c'est vrai. Et le théâtre, pour moi, fait partie de ça. Il s'agit de... Qu'est-ce que c'est que faire du théâtre? C'est lire, tout simplement. C'est être un lecteur, après tout. L'acteur est lecteur, avant tout. C'est le premier lecteur de la représentation. Mais la façon de lire, d'ouvrir, avec son corps, avec le rythme de son débit, avec son regard, avec ses larmes, avec ses rires, etc., avec sa voix, le fait de lire comme un hiéroglyphe vivant, en quelque sorte, l'acteur, donne une seconde lecture, en quelque sorte. C'est-à-dire que... Ce n'est plus un livre, qui est une forteresse imprenable, c'est un homme ou une femme, qui sont là devant vous. Et eux, ils ne sont pas forteresse imprenable. Eux, on peut se projeter, eux, on les comprend, eux, on les connaît. Et finalement, ils vont, comme des spectres, imbiber, travailler, errer à l'intérieur de ces mots, de cette encre, Et au bout d'un moment, vous montrez ce qu'était l'écriture, le « c'était écrit » de l'écriture. Et je trouve que c'est l'activité première de tout homme qui se respecte.
Il est quasiment 19h20 sur Radio Campus Paris et notre invité vous a préparé une lecture. Daniel Mesguich, je crois que c'est à vous pour le Misanthrope.
Alors, il s'agit d'une lecture, mais c'est une lecture, c'est pas tout à fait une lecture, c'est du théâtre hein, quand même. Mais bon, je vais lire donc une pièce de théâtre, quelque chose qui n'est pas simplement à lire. Alors, il y a deux personnages, il y a Philinte, l'ami d'Alceste, et Alceste, c'est-à-dire le misanthrope. Philinte, qu'est-ce donc, qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Ça, c'est Alceste qui répond. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusque-ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez, à moi, d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît, que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui, de civilité avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant ? Non. Non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.
Vous venez donc, Daniel Mesguich, de nous lire un extrait du Misanthrope de Molière, avec une lecture particulièrement vivante et vivifiante, intense. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être, sur
la pièce ? Mais vous savez, j'ai commencé par vous dire que le théâtre était le théâtre et que la lecture était la lecture. C'est simplement pour dire aussi une chose précise. Là, j'ai lu de manière conventionnelle. Je l'ai lu, bon, je veux bien penser que je l'ai lu de manière vivante, comme vous le dites, mais malgré tout conventionnelle. C'est-à-dire que Philinte était le brave homme un peu pactisant avec la société, et puis Alceste, le type qui est bougon et qui dit comment vous êtes hypocrite, etc., etc. Ça, c'est ce qui est écrit, ou à peu près, et voilà, j'en rends compte par une lecture. Mais si je mettais en scène ça, je ferais d'autres choses. Par exemple, je montrerais que Alceste n'est pas du tout un misanthrope, mais qu'il est simplement amoureux, et que, par exemple, hein, c'est un exemple, et que il ne pense qu'à Célimène, il se fout éperdument de savoir si on est sincère ou pas sincère, mais puisqu'il faut que Célimène le soit à son égard, et que c'est ça qu'il désire plus que tout, Célimène, c'est la femme qu'il aime, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le misanthrope, eh bien alors il défend cette sincérité-là, mais ça n'est pas du tout ce qu'on croit. D'autre part, Philinte est peut-être le plus misanthrope de tous, parce que c'est lui qui s'en fout un peu, qui méprise un peu tout ça, alors qu'au contraire, Alceste serait celui qui s'y accroche, etc. etc. Le théâtre est fait pour être un appareil critique, pour montrer des lectures, pour montrer des contradictions, pour montrer des tensions, pour montrer un espace, et donc des rapports. Vous savez, le théâtre a été inventé, on va dire ça comme ça pour aller vite, par Eschyle, un beau jour, devant les Athéniens médusés, au lieu d'un Hippocritès unique devant un cœur unanime, et donc c'était une chose un peu religieuse, hein, qui arrivait comme ça devant les gens, voilà que tout d'un coup, Eschyle met trois personnes, pas d'accord entre elles. Mais alors, du coup, quand elles ne sont pas d'accord entre elles, qu'est-ce qu'elles forment, ces trois personnes? Une scène. Il se faisait une scène. Et le théâtre est né de là. Quand je suis lecteur, il n'y a pas de scène. Et donc, ça n'est pas la même chose. Or, ça, c'est un texte qui est fait, qui appelle de tous ses voeux, si j'ose dire, dans la moelle même de son écriture. Il appelle la contradiction, il appelle l'appareil critique, il appelle la lecture. La lecture même de sens minoritaire. Prenons l'exemple, si vous voulez bien, de Don Juan. Je donne toujours cet exemple parce que je le trouve très probant. Vous savez que dans Don Juan de Molière, il y a une grande tirade de Don Juan sur la liberté en amour. Et il termine en disant à son valet Sganarelle, « Qu'as-tu à dire là-dessus ? » Et Sganarelle répond, c'est écrit comme ça, « Ma foi, trois petits points. J'ai à dire, trois petits points. Ah, je ne sais que dire, car vous tournez les choses, etc. etc. » Et « Ma foi, j'ai à dire », c'est toujours joué comme je viens de le faire, c'est-à-dire... Je ne sais pas, parce que l'autre parle bien, c'est un grand seigneur, il a fait des études, et sans doute que Sganarelle est plus populaire, et il a moins de mots à mettre sur ses idées. Mais il y a un sens minoritaire possible, puisqu'il est écrit, il est donc possible, qui est, à tout ce que vous venez de dire, monsieur, moi j'ai à vous dire ma foi, j'ai à dire. Et c'est une autre façon d'entendre le texte. Je ne dis pas que Jean-Baptiste Boclin, dit Molière, y ait pensé, forcément. Mais même s'il n'y avait pas pensé, il l'a écrit. C'est écrit. Un peu plus tard, dans cette même pièce, dans Don Juan, Elvire, la femme qu'il a laissée, Don Juan revient le trouver et lui fait une grande tirade pour lui expliquer qu'il mène une vie de patachon et qu'il devrait faire attention à lui, sinon le ciel se vengera. Et elle pleure et elle est très émouvante. Elle dit que ce n'est pas pour elle qu'elle dit ça, mais pour lui, etc. Et Don Juan se tourne vers Sganarelle et dit à Sganarelle, tu pleures, je pense. Et c'est toujours joué comme je viens de le dire maintenant, avec un peu de morgue, un peu d'ironie, hein, tu pleures, je pense. Sentimental comme je te connais, j'imagine que tu pleures, etc. Mais en fait, moi, je peux entendre un sens minoritaire caché au théâtre, pas en lecture, au théâtre, qui est, tu pleures, je pense. C'est un partage du monde. Toi, tu pleures, moi, je pense. Voilà, c'est ce qui fait notre différence. C'est possible, vous voyez, et le théâtre... travaille sur ses possibles, alors que la lecture, elle, doit rendre compte du sens dénoté le plus simple, peut-être le plus paresseux, le plus simple en tout cas, qui est écrit là, et c'est ce que je fais quand je fais une lecture.
Alors, on a commencé en parlant de Proust, maintenant on parle de donc Proust, littérature, maintenant on parle de Molière, théâtre, et donc de la lecture. Est-ce que ce que vous dites, c'est que quand on lit un texte, de façon sonore, pas au théâtre, au final, on ne fait que prêter sa voix au texte lui-même quand on l'interprète.
Oui, le plus possible en tout cas. Parce qu'il n'y a pas d'espace, parce qu'il n'y a pas de contradiction, parce qu'il n'y a pas d'appareil critique. Mais oui, le plus possible, je pense que, au fond, si vous voulez, un texte n'existe pas. C'est la trace de quelque chose qui a été vivant. À part peut-être, et encore je n'en suis pas sûr, le buisson ardent en haut du mont Sinaï, tous les textes ont été écrits par des hommes. Et donc ils ont été vivants, ils ont respiré, ils ont mangé, ils ont fait pipi, enfin c'était des hommes. Eh bien, ils avaient une voix donc. Il n'y a pas de texte dont quand on gratte bien l'encre, on ne trouve pas la voix de quelqu'un. Je dis toujours moi que lire un texte à haute voix devant des gens, c'est réveiller la voix qu'il y a toujours au fond de l'encrier. Au fond de chaque encrier, il y a une voix. Ça ne veut pas dire prendre la voix de l'auteur, se prendre pour l'auteur ou se prendre pour tel personnage ou je ne sais quoi. Non, bien sûr que non. Ça veut simplement dire par sa propre voix, la voix c'est la présence. Hein. La voyelle c'est la voix, c'est la présence. La consonne c'est la trace, c'est l'absence. Eh bien, par sa propre voix, par sa propre présence, on réveille une présence enfouie, cachée dans l'encrier, qui est la voix du texte, oui, le plus possible en tout cas.
C'est assez intéressant parce qu'en fait, ces deux réflexions que vous venez de mener devant nous croisent un autre vieux corsaire du théâtre qui a été votre prédécesseur au conservatoire, Louis Jouvet, donc dans Le comédien désincarné notamment, dans un ouvrage sur Molière, il disait qu'il fallait s'attacher au texte pour trouver le personnage. Mécanisé par la diction, ce que Molière a couché sur papier, que le comédien devienne ce qu'il appelle une cloche pneumatique vide, remplie donc de la pneuma, le souffle, et que grâce au texte, on peut retrouver un rythme, une respiration en fait, qui est comme laissée là par l'auteur, et qui est comme en attente d'un corps, d'un appareil vocal pour s'incarner.
Je suis pas d'accord.
Oui, mais justement, c'est pour ça que
j'ai beaucoup de respect pour Jouvet, bien entendu, qui n'en aurait pas, mais je ne suis quand même pas d'accord. Je suis doublement pas d'accord, si j'ose dire. D'abord parce qu'il croit au personnage, je n'y crois pas. Un personnage, ça n'existe pas. Il n'y a pas de personnage. Il n'existe pas de Don Juan, il n'existe pas d'Alceste, il n'existe pas de Médée ou d'Hamlet. Il existe du texte qui est écrit dans un livre, sur du papier, et c'est à nous à nous débrouiller avec ça. Le personnage, ce serait quoi? Ce serait le sujet du 19e siècle, en quelque sorte. Mais non, un personnage n'est pas une personne, si vous voulez. J'ai la preuve, d'ailleurs, de ce que j'avance. Aucun personnage de théâtre au monde n'a de papier d'identité. Je n'ai jamais vu les papiers d'identité d'Hamlet ou de Médée. Jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de réalité sociale. Il n'y a pas de réalité. Aucun personnage au monde n'a une montre, ou dans sa poche, ou à son poignet. Ils ne savent pas l'heure, ils ne savent pas le temps. En fait, ce ne sont pas des personnages, ce sont ce que j'appelle des personâtres, c'est-à-dire un peu comme on dit, c'est pas jaune, c'est jaunâtre, vous voyez, c'est à peu près quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un. Ce sont des lignes de force, des lignes de fuite, des traits, des buées, des halos, comme ça, et on appelle ça personnage. Ça ressemble vaguement à une personne, mais ce n'est pas une personne. Et je crois que c'est ça qui constitue le théâtre moderne. Le théâtre moderne, c'est de ne pas croire que nous avons des personnes et que nous allons les représenter une deuxième fois. Non, c'est que nous n'avons pas de personnes, nous n'avons rien. Nous avons une espèce de trou noir. Et dans ce trou, il y a la nuit en nous, la nuit en chacun de nous. Et dans cette nuit, on pique un point qui n'a pas de dimension par définition, c'est un point. Et ce point, on va l'ouvrir en une heure et demie ou deux heures et en faire du théâtre. Mais ce ne sont pas des personnages, c'est la part de moi que je ne connais pas. Si vous voulez, la vie quotidienne nous empêche de nous voir. On sait très peu de choses sur nous-mêmes dans la vie quotidienne. Mais il existe une étrange activité, dans certains pays en tout cas, dans certaines cultures, où on éteint la lumière sur vous, vous faites silence, et on allume sur des parts de vous que vous ne connaissez pas. La part de vous qui s'appelle Don Juan, la part de vous qui s'appelle Hamlet, la part de vous qui s'appelle Médée, la part de vous qui s'appelle Antigone. Bon, voilà, c'est en vous, mais vous ne savez pas que c'est en vous. Et vous regardez cet endroit minoritaire en vous, et c'est comme ça que vous suivez, comme on dit, du verbe suivre. Vous suivez la pièce et vous trouvez ça passionnant, palpitant, etc. Mais c'est vous, en fait. C'est des morceaux de votre structure. Eh bien, ce ne sont pas des personnes. Vous voyez bien que ce ne sont pas des personnes. Je crois que la plus piètre des personnes que vous croisez dans la rue est plus grande que le plus grand des personnages magnifiques et monstrueux de la littérature mondiale, pour la bonne raison qu'elle les comprend, elle les contient. La personne la plus piètre que vous croisez dans la rue a un versant Médée, un versant Hamlet, un versant, Roi Lear, etc. Et c'est pour ça que nous allons au théâtre, pour voir cet invisible, pour penser cet impensable, pour fréquenter cet infréquentable, etc.
Merci pour vos lumières. Beaucoup de choses que vous avez dites, et donc on vous laisse méditer, chers auditeurs, sur une pause musicale, une parenthèse. C'est une lecture en musique, ce sont deux grands artistes qui se rencontrent, c'est Apollinaire et Léo Ferré.
l'amour est mort, j'en suis tremblant. J'adore de belles idoles, les souvenirs lui ressemblant. Comme la femme de Mosol, je reste fidèle et dolent. Je suis fidèle comme un dogomètre, le lierre au trot. Cosaques aborogues, ivrognes pieux et larrons, aux steppes et aux décalogues. Portez comme un joug le poisson qu'interroge les astrologues. Je suis le sultan tout puissant, oh mes cosaques aborogues. Votre seigneur éblouissant. Ha 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 ha. La 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 la. Devenez mes sujets fidèles, leur avait écrit le sultan. Ils rirent à cette nouvelle et répondirent à l'instant à la lueur d'une chandelle. Criminel que Barabbas, ha, ha, ha. Cornu comme les mauvais anges, ha, ha, ha. Quel Belzébuth es-tu là-bas, nourri d'immondices et de fanges, nous n'irons pas à tes sabbats, ha, 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 ha. Poisson pourri de Salonique, long collier d'estomacs affreux, dieux arrachés à coups de pique, ta mère fit un péfoir et tu naquis de sa colie. Bourreau de peau de lit, amant des plaies, des ulcères, des croûtes, coin de cochon, cul de jument, des richesses, garde les toutes pour payer tes médicaments.
Vous venez d'écouter la chanson du Mal-aimé, qui est donc une mise en musique du poème homonyme d'Apollinaire, issu du recueil Alcool.
Alors Daniel Mesguige, vous êtes un grand lecteur, c'est ce qui explique notamment votre présence au festival Livre en tête. Moi j'aimerais savoir comment vous travaillez le passage du texte écrit au texte oral, à l'interprétation orale, parce que avec votre intervention qu'on a eue juste avant l'interlude musicale, on a pu découvrir que vous faites la part belle à l'interprétation.
Oui, mais vous parlez du théâtre ou de la lecture? Parce que si c'est la lecture, alors il y a une part de ce que je vais dire sur la lecture qui appartient aussi au théâtre, bien sûr, mais le théâtre, encore une fois, est plus vaste que ça. Concernant la lecture, je dirais deux choses. Il y a d'abord le goût, ce qu'on a en bouche, enfin, quand on lit un texte. Vous savez, il y a deux grandes conceptions, si vous voulez, de la prononciation des mots et même des mots eux-mêmes. Il y en a une qui appartiendrait à Cratyle, le copain de Platon, et l'autre qui appartiendrait à Saussure. Saussure dit tous les mots sont arbitraires. Cette chose que j'ai en ce moment dans la main s'appelle stylographe, mais ça pourrait s'appeler lunette. Et ce qui est posé là-bas s'appelle verre, mais ça pourrait s'appeler fourchette. Enfin, voilà. C'est arbitraire, on est habitué comme ça, et voilà. Et d'ailleurs, si le mot bras voulait vraiment s'accrocher à cette chose qui est mon bras, alors dans ce cas-là, en anglais, le mot arm ne s'accrocherait pas. Or, il s'accroche aussi, enfin, donc vous voyez bien que c'est arbitraire, etc. scientifiquement, comme on dit, Saussure a raison. Cratyle, lui, a tort. Cratyle, il dit non, le mot, c'est la chose, le mot touche la chose, etc. Et pourtant, si Cratyle avait absolument tort, et si Saussure avait absolument raison, eh bien, il n'y aurait pas de poésie. En français, par exemple, vous ne me ferez jamais croire que le mot bronze n'est pas lourd ou que le mot beurre n'est pas gras. Vous voyez ? Eh bien, quand je lis un texte, je cherche comment rendre gras le mot beurre, comment rendre lourd le mot bronze, si vous voulez. Et, ou bien rouge le mot pourpre. Voilà. Ou bien sanglant le mot sang. Vous voyez, ou sec le mot soleil, voilà, etc. Et au bout d'un moment, vous allez voir, à peine vous faites ça, alors en jouant avec les allitérations, les assonances, et voilà, mais à peine vous faites ça, le texte commence à éclore. Ça, c'est une première chose. Il est vivant, comme une fleur, vraiment, il est vivant. La deuxième chose, c'est le rythme. Je le montre beaucoup avec les alexandrins. Par exemple, alors les alexandrins, c'est une forme évidemment ancienne. On n'écrit plus en alexandrin. Mais l'alexandrin reste là, le maître étalon, si vous voulez, du rythme de la langue française. Par exemple, si vous avez La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, de Mallarmé, vers célèbre de Mallarmé, eh bien, La chair est triste, 4, c'est le maximum qu'on puisse faire en un seul pied. Parce qu'un pied, vous savez, un alexandrin a 4 pieds, il n'a pas 12 pieds comme on l'entend partout, il a 4 pieds, il a 12 syllabes, mais 4 pieds. Et donc le premier pied c'est un morceau d'hémistiche, un morceau de demi-vers donc, le deuxième pied l'autre morceau, et puis comme il y a deux hémistiches, deux demi-vers pour faire un vers, eh bien ça fait 4. Voilà, eh bien 1, 2, 3, 4 c'est le maximum. Donc la chair est triste, hélas, et ça retombe sur hélas, comme par hasard, ça retombe, et puis, et j'ai lu tous les livres, et ça c'est la monotonie, 3, 3, hein, et j'ai lu tous les livres. Donc si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essayez dans n'importe quel autre sens, vous n'y arriverez pas. Vous n'allez pas dire la chair est triste, hélas, la chair est triste, hélas. Enfin, vous voyez, ça ne marchera pas. Mais la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, ça marche. Donc là, le rythme épouse entièrement le sens du vers. Si vous avez dans le bateau ivre de Rimbaud, par exemple, les ayants cloués nus au poteau de couleur, c'est un 3, 3, 3, 3, c'est les vers les alexandrins les plus faciles à faire, les 3, 3, 3, 3, c'est des cadences. Mais c'est le bruit du marteau. Les ayant cloués nus au poteau de couleur. Hein, voilà. Et essayer autrement, ça ne marchera pas non plus. Ça, c'est quand le rythme est en accord avec le sens. Maintenant, Racine, par exemple, qui est un poète génial, lui, il s'arrange pour faire autre chose encore. Vous connaissez ce vers célèbre dans Bérénice, « Dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui ». Alors on imagine ce pauvre Antiochus, c'est lui qui dit ça, en train de marcher dans le sable, comme ça, c'est l'Orient, le désert, on voit l'horizon au loin, les dunes, enfin rien, quoi. Et puis il souffre au milieu de ça en pensant à Bérénice. « Dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui ». Mais le vers suivant, c'est « Je vous cherchais longtemps, errant, dans ces arrêts ». 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez bien que ça commence par 4 et ça se termine par 4, c'est plus long que ce qu'il y a au milieu, qui est le 2-2. Hein. Autrement dit, ça se referme en quelque sorte. Je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. Ça se referme comme des parois. En réalité, il est en train de dire, je suis dans un cachot. Vous voyez l'Orient, vous voyez le désert, vous voyez les dunes, vous voyez ça, l'infini. Mais dans l'infini, dans le désert, je suis enfermé comme dans un cachot. Ça, c'est le rythme qui le dit, pas le sens des mots. Et ça, ça devient génial. Quand on entend ça, quand on aiguise son oreille pour entendre ça, tout devient sublime. Chez les grands écrivains, bien sûr. Là, je parle de Racine, évidemment, c'est un grand. Mais Proust est un grand. Mais Camus est un grand. Vous voyez, et au bout d'un moment, quand vous cherchez, vous trouvez. Et ça devient magnifique. C'est comme ça qu'on passe à l'oral.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night
the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Bouquinerie, bouquiner,
bouquinaire, bouquinal,
bouquinaire, bouquinal, bouquineux, bouquineuse, bouquinarial, bouquinairement, bouquinant, bouquin,
il y a toujours une problématique en traduction, c'est celle de rendre la langue vivante. Vous-même, vous êtes traducteur de Shakespeare, entre autres, et vous considérez qu'il ne faut pas s'enliser dans la vague idéologie d'une langue académiquement naturaliste.
Alors oui, comment est-ce que vous parvenez à passer de l'anglais au français tout en conservant la langue, et en l'occurrence la langue shakespearienne, la plume shakespearienne?
Je ne la conserve malheureusement pas. Vous savez, si on poussait le... J'essaie d'être le plus attentif possible au signifiant, c'est-à-dire à ce qui est écrit vraiment, à la structure des mots, au son des mots, à leur forme, à ce que sont matériellement les mots. Mais si je j'étais tout à fait conséquent avec ce que je viens de vous dire, je laisserais le texte anglais, parce que le signifiant, il est anglais, donc au départ. Encore que cet anglais soit un anglais étrange, hein. Shakespeare, c'est pas de l'anglais, c'est du Shakespeare. C'est-à-dire que c'est un mélange, évidemment, c'est majoritairement ce qu'on appelle l'anglais. Mais il y a beaucoup de mots français, enfin de mots très proches du français. À l'époque, les faux amis n'étaient pas si faux que ça, les amis, d'une part. Et l'autre, et puis à la cour, on parlait français. Enfin, la langue anglaise et la langue française étaient très proches. D'ailleurs, il m'est arrivé de traduire Shakespeare avec des dictionnaires de vieux français, d'anciens français, où je trouvais le mot que je ne trouvais pas dans les dictionnaires anglais. Mais d'autre part, il faut entendre que Shakespeare... C'est un génie, enfin, si ce type s'appelle bien Shakespeare, hein, qui a écrit, c'est un génie, et lui, alors qu'on croit qu'il écrit une chose, il en écrit une autre. C'est-à-dire qu'alors que vous croyez, par exemple, qu'il y a telle tirade sur l'amour ou sur la détestation, je ne sais pas quoi, de Antoine dans Antoine et Cléopâtre, par exemple, eh bien, en fait, pas du tout. En réalité, il a pris trois lettres, par exemple B, L et W, et puis il les a déclinés, il s'est amusé. Moi je me suis rendu compte de ça en lisant une tirade d'Antoine, en anglais, pour moi, comme ça je me lisais, pour trouver le goût des choses, et je voyais, alors je ne sais plus, BLW par exemple, The Wind Blows, le vent souffle, alors BLW dans Blows. Et puis je vois que le mot suivant commence par B, je l'entends puisque je prononçais les mots comme ça pour le plaisir, et puis le mot suivant par L, et puis le mot suivant par W. Je me dis tiens, c'est bizarre, ça, il a joué comme ça sur les... littération. Et puis je vois que encore le mot suivant, L, puis W encore, puis L, et puis B, et presque tous les mots comme ça, et pendant 10 lignes. En réalité, c'est comme s'il avait pris 3 lettres et qu'il s'était amusé pendant 10 lignes à jouer avec ces 3 lettres. la plupart des traducteurs ne voient pas ça. Et ils traduisent le sens comme si c'était du James Hadley Chase ou comme si c'était le Herald Tribune. Mais non, c'est du Shakespeare, il faut être attentif à ça. Et ça change tout. Je vous donne deux exemples. À un moment, Hamlet dit « words, words, words », vous savez, des mots. Il dit ça à Polonius. Que lisez-vous, monseigneur, dit Polonius, et il lui répond « des mots ». Tout le monde traduit « words, words, words » par « des mots ». C'est juste, c'est ça que ça veut dire. Bien. Mais, tout le long de la pièce, on oppose les mots à l'épée. Le spectre lui-même visite Hamlet et lui dit « quand tu verras ta mère, blesse-la par des mots, pas par une épée. Hein. Tu feras attention de rentrer ta dague. » En plus, le symbole psychanalytique et sexuel est évident. « Rentre ta dague, surtout ne la sors pas, mais fais simplement entrer des mots dans son oreille. » Bien. Lui-même, d'ailleurs, il meurt, le spectre, non pas parce qu'on lui a planté une épée dans le corps, mais parce qu'on lui a dit des mots à l'oreille. Autrement dit, les mots et l'épée s'opposent sans cesse. Hein. La violence du soldat et la culture du clerc, etc. Mais pourquoi trois fois des mots? Pourquoi words, words, words? Eh bien, dites-le en anglais. À l'époque, tous les O avaient le même son. Et vous entendez qu'il est en train de dire words, words, words. Puisqu'il y a trois fois. Words, 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 words. Vous voyez? Et tout d'un coup, vous sentez qu'il a joué avec ça. Un peu plus tard, il y a la souricière. Et à un moment, le roi Claudius comprend qu'on est en train de jouer le meurtre qu'il a commis ou qu'il aurait commis. Et alors il se lève fou de rage en disant « lumière, lumière, lumière !» Et ça s'écrit « lights, lights, lights ». Mais si vous entendez « slight »,« lights, 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 lights », eh bien ça veut dire « offense ». Et donc il est en train de dire « offense, offense, offense », en même temps qu'il dit « lumière ». De la même manière qu'on était en train de dire des mots en même temps qu'on disait « épée ». Comment voulez-vous traduire ça? Comment ça se traduit? Ça ne se traduit plus, c'est impossible. Le signifiant fait corps avec d'autres possibilités, vous voyez. Mais quand on est attentif à ça, alors on traduit avec d'autres lettres, d'autres façons. On décale un peu, mais quand même, il y a le même nombre et la même charge de signifiant et de jeu sur le signifiant. Dans la traduction que j'ai faite d'Hamlet, par exemple, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, c'est pas à moi de le dire, bien entendu, mais en tout cas, j'ai été très attentif à ça. Et tout le long, quand je voyais qu'il y avait... un jeu de mots, j'arrivais évidemment pas à le traduire, par définition. Un jeu de mots, c'est en anglais qu'il joue le mot, c'est pas en français. Mais je faisais un autre jeu de mots un peu plus loin, qu'on ne me demandait pas. Mais j'avais la même quantité de jeux de mots, en quelque sorte, vous voyez. C'est-à-dire que je traduisais, même ce qui n'était pas écrit, je traduisais que Shakespeare était un poète, je traduisais que tout d'un coup le rythme me semblait rapide, je traduisais le fait qu'il y avait de la dérision, je traduisais... En même temps, je traduisais le fait qu'il y avait 3 fois, ou 50 fois plutôt, la lettre B et la lettre L dans la même tirade, enfin, etc., etc. Je traduisais ça. C'était peut-être pas en français B, L et W. C'était peut-être M, N et X, peu importe. Mais j'avais le même nombre de choses, le plus possible, autant que le signifiant. La plupart des traducteurs traduisent ce qu'ils croient avoir compris, comme s'ils étaient des interprètes. Un traducteur n'est pas un interprète. D'un interprète, j'attends qu'il dise exactement ce que j'ai dit. Si je suis dans une tractation commerciale ou politique, bien évidemment, j'attends de l'interprète qu'il dise le plus possible ce que j'ai voulu dire. Mais un traducteur, c'est autre chose. Un traducteur, c'est un écrivain, d'abord. Et, par exemple, Shakespeare. Je ne traduis pas ce qui est écrit, je traduis le fait que, d'abord, Shakespeare est un poète. 90% des soi-disant traducteurs de Shakespeare traduisent ce qui est écrit, mais pas que Shakespeare est un poète. Je vais le dire autrement. Si Shakespeare était français et avait écrit le texte original comme eux, traduisent Shakespeare en français, mais Shakespeare ne serait pas connu. Enfin, c'est quand même un texte minable à côté du texte génial anglais. Donc il faut traduire ce génie d'abord, enfin, si j'ose dire, vous voyez. Voilà. Et je crois que si on est attentif au signifiant, encore une fois, c'est-à-dire à la matière même des mots, à la lettre, c'est le cas de le dire, ça change tout. Donc le plus possible, encore une fois, aussi bien pour l'interprétation que pour la traduction, qui sont un seul et même geste, au fond. Hein. Un interprète est un traducteur est un interprète. L'attention au signifiant est fondamentale.
J'avais écrit quelques mots pour la fin de l'émission. J'avais écrit « Il est bientôt l'heure de nous quitter pour nos hamacs ». Après, si tu souhaites en savoir plus, chère bouquineuse, cher bouquineur, etc. J'ai envie de reprendre ça et j'ai envie de dire j'espère, cher auditeur, que tu as pris autant de plaisir intellectuel, d'émulation, de... Bon, maintenant il faut que je conclue l'émission, donc je dirais simplement, n'hésite pas à consulter la programmation en ligne du festival, donc, puisque c'était aussi un des thèmes de l'émission, donc sur festival livre en tête tout attaché sans accent.com. Et donc avant d'éteindre notre feu de camp et que vous nous repartiez pour de piratesques aventures sur Radio Campus Paris, nous vous rappelons que vous pouvez podcaster nos émissions sur www.radiocampusparis.org, onglet émissions, cherchez la bouquinerie.
Vous pouvez également nous écrire par mail, Facebook, Twitter, ou si vous préférez par perroquet voyageur, pourquoi pas. C'est à Radio Campus Paris, hébergé par la Maison des Initiatives étudiantes, 50 rue des Tournelles, 75 004 Paris.
Alors, Daniel Mesguich, merci, merci au livreur. Est-ce que vous auriez quelques mots pour ouvrir nos pensées vers de nouveaux horizons pour la fin de cette émission?
Ah mon Dieu, ça c'est la pire chose que vous puissiez me demander. Ouvrir des pensées en fin d'émission.
Non, ouvrir de nouveaux horizons par quelques points de suspension, on va dire.
Non, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé moi aussi enregistrer cette émission avec vous. D'abord parce que je trouve que c'est intelligent, tout ce que vous suscitez, enfin, d'une part. Et d'autre part, parce que je trouve qu'il y a un ludisme et une bienveillance que je trouve magnifique. Enfin, moi, j'étais très, très heureux ce soir. Non, je ne peux pas ouvrir vos pensées, comme vous dites, mais en tout cas, je peux constater que je suis heureux. Grâce à vous.
Bon, eh bien, nous, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, qu'on a passé un super moment aussi.
Ah oui, c'est sûr.
Et oui, grand merci, ouais.
Alors... Merci à vous, vraiment.
Bon, eh bien, chers auditeurs, j'espère que toi aussi, vous avez passé un très bon moment. On vous laisse en compagnie de Museum Slide sur 93.9 FM. Bon dimanche, bonne semaine, et que les bretzels bénissent vos os. Au revoir.